Quelqu'un a une question? Non? Il y a quelques jours, à la classe de traduction dans la vie divine, j'ai trouvé un passage qui, je pensais, pourrait vous intéresser ce soir. Aubino parle du mouvement de la nature et comment de la matière qui paraît inerte est sortie la vie et de la vie est sorti le mental. Et alors, il parle aussi de comment du mental sortira le supramental ou la vie spirituelle. Et il donne une sorte de résumé du temps que cela prend. Et je vais vous lire ce passage et je vous dirai ensuite quel rapport cela a avec notre présente situation. Le premier mouvement matériel obscur de la force évolutive est marqué par un développement qui s'étend sur des âges. Le mouvement du progrès de la vie se poursuit, mais cependant d'une marche plus rapide. Il est concentré sur des chiffres de millénaires. Le mental peut comprimer encore davantage la lenteur nonchalante du temps et faire de grands pas de siècles. Mais quand l'esprit conscient intervient, une allure suprêmement concentré de rapidité évolutive devient possible. Je vous lis ça parce que, à une question que l'on m'a posée à propos de l'action du supramental, je disais que j'ai comparé cette manifestation du supramental à la manifestation du mental qui, selon toutes les découvertes scientifiques modernes, a mis environ 1 million d'années pour évoluer du cerveau animal, du cerveau simiesque, le premier cerveau humain. Et je vous ai dit que, par conséquent, il ne fallait pas espérer que ça se fasse en quelques mois ou en quelques années, qu'évidemment, ça prendrait plus longtemps. Il se trouve que certaines personnes ont cru que j'annonçais qu'il n'y aurait pas de surhomme avant 1 million d'années. Je veux corriger cette impression. Sir Bindo dit que, à mesure que le développement s'élève dans l'échelle de la conscience, le mouvement devient de plus en plus rapide et que lorsque l'esprit ou le supramental s'en mêle, ça peut aller beaucoup plus vite. Par conséquent, nous pouvons espérer que dans quelques siècles, la première race supramentale paraîtra. Mais cela même est assez déconcertant pour certaines personnes. Parce que elles croient que c'est une contradiction avec ce que Sir Bindo a toujours promis, que le temps était venu où la transformation supramentale était possible. Il ne faut pas confondre une transformation supramentale avec l'apparition d'une race nouvelle. Ce que Sri Aurobindo promettait, et ce qui évidemment nous intéresse, nous qui sommes ici maintenant, c'est que le temps était venu où quelques êtres d'élite dans l'humanité qui remplissent les conditions de spiritualisation nécessaires seraient capables de transformer leur corps à l'aide de la force, de la conscience et de la lumière supramentale pour ne plus être des hommes animaux, mais devenir des surhommes. Cette promesse, il l'a faite et il l'a basée sur la connaissance qu'il avait que la force supramentale était sur le point de se manifester sur la Terre. En fait, elle était descendue en lui depuis fort longtemps et il la connaissait. Et il savait quels étaient ses effets. Et maintenant qu'elle s'est manifestée d'une façon cosmique, je peux dire, générale, naturellement, la certitude de la possibilité de transformation est encore plus grande. Il n'y a plus aucun doute que ceux qui rempliront ou qui remplissent les conditions sont en marche vers cette transformation. Les conditions, il les donne en détail, dans la synthèse des yogas et encore plus en détail dans ces derniers articles sur la manifestation supramentale. Et il ne s'agit donc plus que de réaliser. Maintenant, si quelqu'un veut me poser une question sur le sujet. C'est tout.
La soumission au groupe complet. Et maintenant aussi, c'est la même chose. Alors, dans cette nouvelle condition, est-ce que cette soumission n'est pas encore rigoureuse qu'auparavant? La méthode pour cette réalisation était la soumission intégrale à vous. C'était avant aussi, maintenant aussi. Mais avec la nouvelle condition, est-ce que ce n'est pas plus rigoureuse?
Plus
rigoureuse.
Ce que j'ai lu aujourd'hui paraît être là. La condition de début la plus essentielle. Parce que c'est celle qui est la plus universelle. Chacun veut suivre son chemin selon sa nature propre. Et il y a toujours une inclinaison vers une manière plutôt que vers une autre. Et comme nous l'avons lu dans une des dernières classes, celui qui suit le chemin de l'action. Pour lui, il est beaucoup plus difficile de sentir que la personnalité humaine n'existe pas et que seule la force divine agit. Pour celui qui suit le chemin de la connaissance, c'est relativement très facile. C'est une chose que l'on découvre presque immédiatement. Pour celui qui suit le chemin de l'amour, c'est élémentaire, puisque c'est en se donnant qu'il avance. Mais pour celui qui suit le chemin de l'action, c'est beaucoup plus difficile. Et par conséquent, pour lui, le premier pas, c'est de faire ce qui est dit ici, c'est-à-dire de créer en lui ce détachement complet du fruit de l'action. D'agir parce que c'est cela qu'il faut faire, de le faire de la manière qui paraît être la meilleure et de ne pas se soucier des conséquences, de laisser les conséquences à une volonté supérieure à la sienne. On ne peut pas faire une règle générale dans l'ordre d'importance du chemin. C'est une chose exclusivement personnelle. Et il y a un moment où on comprend très bien. C'est visible qu'il n'y a pas de chemin semblable, qu'il ne peut pas y avoir de chemin semblable, que chacun suit son propre chemin et que c'est ça la vérité de son être. On peut, si l'on regarde d'assez haut, voir une différence dans la rapidité de l'avance. Mais elle n'est pas toujours conforme aux signes extérieurs. Et on pourrait dire, d'une façon un peu plaisante, que ce n'est pas toujours le plus sage qui va le plus vite. Il ne me paraît plus possible de faire des règles générales. En fait, la grâce est sur tous et qu'est-ce qu'il faut pour la laisser agir? C'est très difficile de le dire. Si on peut l'apercevoir, la sentir, éprouver pour ainsi dire son action, être conscient de sa présence et de son mouvement. Alors, on a la joie du mouvement, du progrès, de la réalisation. Mais cela ne veut pas dire qu'en dehors de cette joie, l'action n'existe pas, que la réalisation n'est pas là. Et en fin de compte, les manières d'être du divin, toutes les manières d'être de la manifestation sont nécessaires pour exprimer le divin. C'est cette manifestation dans son ensemble, dans sa totalité, qui progresse vers une perfection croissante, infinie, éternelle. Ce n'est pas chaque élément séparé individuellement, c'est tout ensemble, comme une expression collective et totale de la vérité divine. Tout cela est en marche, constamment, éternellement, vers une perfection plus grande. L'univers de demain sera nécessairement plus divin, si l'on peut dire. que l'univers d'hier et celui d'hier étaient plus divins que celui qui le précédait. Et ainsi, on pourrait dire que c'est le divin dans son expression de lui-même qui est en perpétuel progrès. Vers une manifestation de plus en plus parfaite, de plus en plus divine. Et dans ce cas-là, chaque élément n'a qu'à manifester aussi parfaitement que possible sa loi propre, ce qu'il doit être dans le tout, pour faire au maximum ce qu'il doit faire. C'est donc la découverte consciente, éclairée, on pourrait presque dire désintéressée, de cette vérité de chaque être, qui est pour lui la première, la plus importante, n'est-ce pas?